Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français de Fuji depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel et l'Indonésie en couleur, ainsi que des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le Conseil de coordination des investissements de l'Indonésie, BKPM, est sûr que l'investissement s'améliorera en 2019. Le déchet plastique marin menace la durabilité des ressources de poissons. L'ambassadrice de Russie apprécie la croissance indonésienne face à l'incertitude mondiale. L'industrie du biodiesel est prête à augmenter l'investissement. Et enfin, le vice-président de l'Indonésie et le recteur de l'Université Hiroshima ont discuté de la coopération. Voici le journal complet. Le Conseil de coordination des investissements de l'Indonésie, BKPM, estime que la tendance des investissements s'améliorera en 2019 après avoir fait face au ralentissement significatif en 2018 avec la croissance économique nationale n'atteint que de 5,17%. Comme cité par Antara, le président du Conseil de coordination des investissements de l'Indonésie, Thomas Lembong, à Jakarta mercredi a déclaré que le gouvernement était optimiste que les réalisations 2019 seraient meilleures. Les grands investisseurs sont optimistes pour 2019 parce que la tempête de la guerre commerciale commence à diminuer. Selon Thomas Lembong, cette année, il y a beaucoup de grands projets qui encourageront la réalisation des investissements. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche a déclaré que la pollution des déchets plastiques en mer menaçait la durabilité des ressources halieutiques nationales. Maman Hermawan, secrétaire de l'Agence de la recherche et des ressources humaines du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, a déclaré mercredi à la presse à Jakarta que la quantité de déchets plastiques difficilement détruits en mer pouvait perturber l'écologie, les écosystèmes et les habitats aquatiques des espèces de poissons en mer. L'élimination des déchets, en particulier des déchets plastiques dans la mer, entraînera la dégradation de l'environnement. L'ambassadrice de Russie en Indonésie, Lyudmila Yozhevna Vorobieva, a apprécié la croissance économique de l'Indonésie de 5,17% en 2018. Au milieu des défis et des incertitudes qui existaient à l'échelle mondiale, l'ambassadrice Vorobieva a déclaré à Jakarta mercredi qu'en ce qui concerne la croissance économique de l'Indonésie, la Russie, en tant que partenaire commercial, était très heureuse de voir une augmentation durable. La croissance économique de la Russie est légèrement inférieure à celle de l'Indonésie. Comme Antara l'a signalé, l'ambassadrice de Russie en Indonésie a estimé que la réalisation de la croissance économique du pays était convaincante et durable, ce qui pourrait servir de base à l'amélioration des relations économiques. Le ministre indonésien du Commerce, Enggarti Astolukita, a déclaré que la croissance économique d'Indonésie de 5,17% en 2018 avait été appréciée par diverses parties. L'industrie nationale du biodiesel se prépare à augmenter ses investissements parallèlement à l'augmentation de la demande du marché intérieur liée à l'augmentation de l'utilisation de 20% de biodiesel ou B20 et à la tendance de l'utilisation du biodiesel dans un certain nombre de pays, notamment dans l'ASEAN. Comme l'a cité Antara, le président de l'Association des producteurs de biocarburants indonésiens, Paulus Cakrawan, a déclaré à Jakarta mercredi que sa partie était invitée la Malaisie à les soutenir à mettre en œuvre le B20 en 2020. Outre la Malaisie, la Thaïlande mettra également en œuvre le biodiesel de 5% ou B5, qui pourrait devenir une nouvelle opportunité de marché pour l'industrie du biodiesel en Indonésie. En outre, selon Paulus, il existe un discours pour accélérer l'utilisation du B30 cette année, ou au moins au quatrième trimestre en 2019. Si cela se produit, certaines industries nationales du biodiesel doivent améliorer la qualité conformément aux normes nationales indonésiennes appliquées. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu mercredi le recteur de l'Université d'Hiroshima du Japon à Jakarta. Cette réunion est une continuation de la coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Université d'Hiroshima et les universités en Indonésie. L'une des universités est l'Université Hasanuddin à Makassar, Sulawesi du Sud. Comme rapporté par Antara, Mitsu Ochi a déclaré que l'Université d'Hiroshima voulait intensifier la coopération dans le domaine de l'éducation avec l'Indonésie. Il a déclaré qu'il y avait actuellement 159 étudiants indonésiens qui étudient à l'Université d'Hiroshima. En outre, l'Université d'Hiroshima a attribué 221 diplômes de doctorat aux étudiants indonésiens. Il a ajouté que 221 diplômes de doctorat donnés aux étudiants ont été divisés en plusieurs domaines, allant de l'ingénierie à la médecine. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la signature de l'accord d'assistance judiciaire réciproque entre l'Indonésie et la Suisse. Après des négociations diplomatiques, y compris de séries de négociations entre l'Indonésie et la Suisse, l'accord d'assistance juridique réciproque MLA a finalement été signé par le ministre des droits et des droits de l'homme, Yasona Hamonangan Lauli, et la ministre suisse de la Justice Karin Keller-Sutter à Bernerhof, Bern, en Suisse, lundi. L'accord est composé de 39 articles régis l'assistance judiciaire en matière de poursuite, de gel, de confiscation et de saisie des avoirs résultant d'un crime. La portée de l'assistance réciproque pénale large est un élément important pour soutenir le processus de droit pénal dans le pays requérant. Cet accord est une tentative du gouvernement indonésien de s'assurer que les citoyens ou les entités légales indonésiennes se conforment à la réglementation fiscale indonésienne et évitent les infractions fiscales. La ministre Yasona a déclaré que l'accord MLA pourrait être utilisé pour lutter contre la criminalité dans le secteur de la fiscalité. Afin de parvenir au crime qui a été commis avant l'entrée en vigueur de l'accord, l'Indonésie propose que l'accord convenu adopte le principe de rétroactivité. Pour l'Indonésie, cet accord est le 10e accord de MLA. Auparavant, l'Indonésie a signé des accords avec l'ASEAN, l'Australie, Hong Kong, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, le Vietnam, les Émirats arabes unis et l'Iran. En ce qui concerne la Suisse, cet accord est le 14e MLA avec des pays non européens. Jusqu'à présent, les affaires liées au blanchiment d'argent et aux délits fiscaux ont été difficiles à divulguer en raison de contraintes d'accès et de couverture. Avec la signature de MLA, cela facilitera la recherche et la prise des avoirs résultant d'actes criminels stockés en Suisse. D'après la recherche de Gabriel Zucman en 2017, le nombre d'actifs mondiaux dans les pays de paradis fiscaux a atteint 10% du PIB mondial, ce qui équivaut à 800 000 trillions roupias. Sur ce montant, 32 000 trillions roupias sont déposés en Suisse. Par conséquent, le gouvernement indonésien a de bonnes raisons de signer un MLA avec la Suisse et de le mettre en œuvre immédiatement. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 7 février. On commence par le 7 février 1965. Les États-Unis ont commencé à bombarder le Vietnam du Nord. À après avoir évacué la dernière famille américaine au Vietnam, les forces armées des États-Unis ont lancé son premier raid aérien contre le Vietnam du Nord le 7 février 1965. Le but des États-Unis et du gouvernement du Vietnam du Sud était d'endommager le réseau d'approvisionnement en armes et en carburant pour les communistes du Vietnam du Nord. Le bombardement a marqué le début de la Deuxième Guerre d'Indochine. En mars 1965, des milliers de marines américains du Vietnam du Sud ont combattu contre le Vietnam du Nord. Ensuite, le 7 février 1986, la rébellion haïtienne contraignait le gouvernement du président Jean-Claude Duvalier pendant 28 ans à se terminer. Jean-Claude Duvalier a été président d'Haïti de 1971 à son renversement en 1986. Il a remplacé son père, François Papadoc Duvalier, dictateur d'Haïti depuis la mort de son père en 1971. Le soulèvement haïtien était une réponse et une protestation de 3 mois contre la répression politique et économique d'un gouvernement autoritaire dirigé par le dictateur Jean-Claude Duvalier. À la suite de la rébellion du peuple, le dictateur haïtien s'est enfui avec sa famille et resté en France. Duvalier a également détourné des milliards de dollars de fonds d'Haïti. La fin, le 7 février 1992, le traité de Maastricht a été signé. Le traité de Maastricht, ou l'accord de l'Union européenne, a été signé le 7 février 1992 par 12 pays membres de la communauté européenne à Maastricht, aux Pays-Bas. Le projet de traité de Maastricht a été rédigé lors d'une réunion du Conseil européen du 9 au 10 décembre 1991 à Maastricht. Le traité de Maastricht a encouragé la formation de l'euro et la création de 3 piliers de l'Union européenne, à savoir la communauté européenne, la politique étrangère et la sécurité commune, ainsi que la justice et les affaires intérieures. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Sebenarnya ku tak ingin pisah darimu. Sebenarnya ku masih sayang kamu, babe. Sementara ego kita hancurkan semua kisah terindah tentang kita. Nantikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Takkan pernah ku biarkan kamu tinggalkan diriku. Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby.
m'aimer. Masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi.
Cerita, setelah sang song ang tutuloy izinkan aku, siyang tepak Abdul E. The Coffee Theory. Wuzet tujur avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc, mon Indonésie, ang tutuloy, l'agence de restauration de la troupe UBRG a testé la technologie aérohydro sur les tourbières à Siak.
Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'agence de restauration de la tour a testé la technologie aérohydro sur les tourbières à Siak. L'agence de restauration de la tour a testé la technologie culture aérohydro sur un certain nombre de tourbières dans la région de Siak, la province de Riau, afin de maintenir le sol reste humide. Aérohydroculture est un système de culture pour les plants de tour qui peut être une solution pour maintenir la productivité des plantes sur les tourbières tout en maintenant le niveau d'eau dans la tour. Ce système est conforme au règlement gouvernemental numéro 57 l'année 2016, soulignant que le niveau des eaux souterraines sur les tourbières doit être maintenu pour qu'il ne dépasse pas 40 cm sur la surface de la tour. La base est très importante pour maintenir le niveau d'humidité de la tourbière. Cela pour maintenir la productivité de l'usine. D'autre part, le risque de drainer les tourbières provoque la diminution de la surface de la tourbière et aussi sujette aux incendies. En outre, ces écosystèmes de tourbe sont des zones humides et il est nécessaire de mettre en place une gouvernance conviviale, durable, et n'endommage pas les tourbières. Monsieur Nasir Fouad, le chef de l'agence de restauration de la tour, a déclaré récemment à Siak que de nombreux choix technologiques ont été développés en Indonésie pour augmenter la productivité des cultures communautaires sur les tourbières afin que les terres restent humides. L'utilisation d'engrais peut également être réduite avec cette technologie. Selon lui, plusieurs technologies ont été présentées à Siak pour l'application de ces méthodes, entre autres l'Institut indonésien des sciences et l'Agence de recherche et de développement du ministère de l'Environnement et des Forêts. La technologie sera testée à Siak. M. Nasir Fouad a révélé que ce type d'atelier était important pour partager des connaissances et des méthodes liées à la gestion de tourbières afin de ne pas enfreindre les règles et règlements. D'autre part, cela procure des avantages économiques et écologiques pour les personnes engagées dans la culture de tourbières. L'atelier, qui est équipé d'une visite directe à la zone de pratique dans la plantation communautaire à Benteng Hulu et Koto Ringin, Mempura Siak, est devenu un exemple direct de la mise en œuvre de la culture aérohydro. Le gouvernement de la région de Siak soutient l'innovation du système de culture aérohydro parce que la plus grande partie de la tour de Siak est utilisée pour les plantations. C'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. Thank you.
jadi kau penerang hatiku, buah hati serta pengarang jantungku. Pudar niang kelam pandangan mataku sejak kau hilang dari sisi.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Bimbang tanpa pegangan » chantée par Dila. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne et voici Magazine Culturel. Pour aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Kudus, Java Central, pour goûter Lentok Tanjung. Et alors, soyez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Kudus est l'une des régions de Java Central qui est populairement appelée la ville de cigarettes kretek parce que dans cette région il y a beaucoup d'usines de cigarettes. Outre que Kudus est également connue comme une ville étudiante. Cette ville était le centre de développement de l'islam au milieu du siècle. Il peut être vu à partir de trois cimetières de Sunan, les saints hommes qui répandent l'enseignement islamique en Java, à savoir Sunan Kudus, Sunan Muria et Sunan Kedu. pas étonnant que cette ville est visitée par de nombreux touristes à faire la tournée religieuse. Et de nombreux touristes prennent également le temps de goûter la nourriture typique de Kudus. L'un des aliments le plus recherché est l'entok Tanjung. L'entok signifie lontong. Lontong est un plat à base de riz comprimé sous la forme d'un cylindre enveloppé dans une feuille de bananier. Et alors Tanjung ou Tanjung Karang est un village à la sous-communauté Jati, la région de Kudus, la province de Java centrale. Les vendeurs de l'entok Tanjung proviennent de ce village. Cet aliment a été vendu uniquement au village de Tanjung. En raison de sa délicatesse, cette nourriture est plus populaire en région de Kudus. Même cette nourriture devient l'une des icônes culinaires de Kudus. Une portion de l'entok Tanjung se compose de tranches de lontong, les légumes de jeune jacquier, au portahou ou du tofu, la sauce liquide et aussi des oignons frits comme complémentaire. Et ensuite, l'entok est servi sur une petite plaque qui est recouverte d'une feuille de bananier. L'unicité de l'entok est sa taille qui est aussi grande que le mollet de l'adulte. La nourriture va sûrement faire l'estomac des gens après avoir mangé cette nourriture. Pour manger l'entok Tanjung, on n'utilise pas de cuillère, mais suru, ou bien une cuillère fabriquée à partir de feuilles de bananier. Son goût est délicieux et savoureux, parce que cette nourriture utilise le lait de coco. D'habitude, l'entok est vendu le matin jusqu'à midi parce que beaucoup de gens aiment cette nourriture comme le petit déjeuner. Il y a beaucoup de vendeurs l'entok dans Kudus à Tanjung Karang, précisément dans le nord de Simpang Lima, Tanjung Karang. Mais maintenant, l'entok est également vendu à divers endroits à Kudus. Le prix n'est pas cher, donc si vous voulez goûter l'entok Tanjung, un aliment typique de Kudus, s'il vous plaît, venez à la région de Kudus, la province de Java centrale. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Awalnya ku selalu duluan memanggilmu. Sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita. Namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? It's right the way I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy you. Dirimu
aku merasa yang terutama. Aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia. Sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? And straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy you.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Billy Simpson intitulée Envy You. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur, intitulée Les étudiants de l'Université Gajah Mada produisent des lumières d'urgence. Deux étudiantes de l'Université Gajah Mada ont réussi à développer des éclairages d'urgence économes en énergie qui ont été produits par elles-mêmes pour des milliers d'unités et commercialisés dans diverses régions. La lame est nommée la hélice, cela veut dire lame d'économie électricité, a été développée par Fadila Nur Hafiza, étudiante en génie mécanique, 20 ans, et par Haleida Nur Hafiza, étudiante diplômée de la faculté d'agriculture, 23 ans. Les deux sont déchets de la région de Blora, Java Central. Fadila a déclaré que la lame, la hélice, avait été développée depuis le début 2017 et avait commencé à être produite en grand nombre en août 2017. Jusqu'en 2019, les lames produites en série d'un maximum de 8000 unités ont été commercialisées dans diverses régions d'Indonésie. Fadila a déclaré que cette lame de six cours avait été conçue à l'origine pour remplacer les bougies de la communauté de Blora car elle subissait souvent des pannes en courant à la nuit. Selon elle, la plupart des villageois de Blora utilisent encore des bougies lorsque l'électricité est coupée, même si l'utilisation et le potentiel de s'allumer quand on les laisse dormir. Cependant, Haïda Nur Hafiza a déclaré que les lampes pouvaient s'allumer pendant 2 heures avec des piles AA de 1,5 volts. La puissance de la lumière peut être plus longue que celle des autres lumières parce qu'elle utilise un transformateur en ferrite avec la configuration de bobines appropriée. Cette lampe est également respectueuse de l'environnement car le transformateur en ferrite utilise des transformateurs en ferrite provenant des déchets de lampes déjà inutilisés. La lampe qui a été développée avec une puissance de 3 et 9 volts a également été conçue de manière minimaliste avec un interrupteur afin de pouvoir être porté et allumé à tout moment à divers endroits sans dépendre de l'électricité de la Compagnie nationale de l'électricité. La lampe a en effet un design simple et pratique, utilisé simplement une pile au lieu d'une bougie. Le prix des lampes d'urgence est de 50 000 rupiah par unité pour les lampes d'une puissance de 3 watts et de 90 000 rupiah pour les lampes de 9 watts. Actuellement, les activités de production d'éclairage qu'elles ont développées ont créé des possibilités d'emploi pour les résidents autour de leur résidence à Blora. En une journée, elles sont capables de produire 15 jusqu'à 20 lumières. C'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Namun
Cerita setelah de Jim Sangsong ang titulé Terlalu de Rosa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.bonus.id. Bon, c'est le temps, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons des chansons nostalgiques chantées par Rin Jamain. La chanteuse, dont le nom complet est Rin Indrianti, est une chanteuse de jazz indonésienne. Elle a commencé sa carrière en chantant les chansons de jazz tout en assistant au programme de TVRI dans les années 1970. Après cela, en 1976, elle termine l'enregistrement de son premier album avec Jess Lesmana, une figure du jazz indonésien, avec une chanson phare intitulée Api Asmara. Cette chanson créée par Yahya raconte l'histoire d'une femme qui vient d'avoir une relation amoureuse et veut que son amant puisse l'aider à effacer tous les souvenirs amers qu'il a vécu. Bon, chers auditeurs, voici donc Rin Jamain avec sa chanson intitulée Api Asmara ou Feu de Romance. Bonne écoute.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.